بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون مشافعون الإسلام ده سو فيرسي دو سورة يونس فيرسي 24 الله عز وجل donne un exemple très concret de la réalité de ce dunya. Et cet exemple est donné à des êtres humains, des personnes qui vivent de ce dunya et d'autres qui souhaitent et qui rêvent d'obtenir encore plus de bien de ce monde, qui en font un objectif et qui vont parfois finaliser les maqasid, les différents rêves qu'ils ont de leur vie à travers l'obtention de telle chose, tel bienfait et d'avoir encore plus de biens matériels. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal nous donne une description très claire par le biais d'un exemple, l'exemple qu'on vient de lire et qu'on va traduire, c'est que ce dunya, c'est la créature d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'il y a de ce dunya, c'est créé par Allah Rabbul Izza et c'est Allah qui en assure son fonctionnement. Celui qui crée ce dunya, celui qui gère les cycles de ce dunya et celui qui décide également de la destruction et du renouvellement de ce dunya et de la redistribution aussi, de la redistribution du dunya, ben c'est ce créateur. Et on a la chance que c'est celui qui a tout créé, c'est lui qui nous donne les informations concernant les biens de ce monde et nous met en garde contre les pièges à éviter et contre les fausses apparences que nous avons l'impression de percevoir ou de voir à travers les manifestations de la beauté de ce dunya. Parce que ce monde est attirant. Et les versets, les termes du verset sont très clairs. On parle à un moment donné de la beauté, de l'émergence de la beauté. Ce sont des réalités. Allah Azza wa Jal ne nous dit pas que le dunya n'a pas de valeur parce qu'il n'est pas beau, parce qu'il n'est pas attirant. Ce discours ne nous parlerait pas. Bien au contraire, Allah Azza wa Jal met en avant le fait que chaque chose de ce dunya, à un moment donné, atteint son summum, atteint un niveau de beauté qui fait qu'il devient attirant. Mais lorsque ce niveau de beauté et d'attirance est passé, ensuite il y a là la chute et le déclin. Et on se rend compte que ce n'était là qu'un cycle, que quelque chose de périodique. Tu rêves d'une chose, tu travailles des années et des années et des années pour avoir telle chose, et quand tu l'as, tu te rends compte que la jouissance que cela t'apporte est très limitée. Et on va voir le verset, et on va voir un exemple très concret. Alors donc, le verset, donc, il reste à traduire, on retrouve, la vie présente, innama al-hayatu dunya, innama mathalu al-hayatu dunya, la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel, et qui se mélange à la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, là c'est le premier cycle, quand le dunya est en train d'être préparé, il va bientôt émerger, et que les hommes convoitent ce monde. On espère faire fructifier notre argent, on espère qu'en investissant dans tel marché, dans tel domaine, on va avoir quelque chose, tout ce que tu planifies. Puis, lorsque la terre prend sa parure, là c'est un autre cycle. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, donc ça c'est le cycle où le dunya devient attirant. Et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition. C'est là l'homme est attiré et l'homme pense que ce dunya est fait pour lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Notre ordre lui vient de nuit ou de jour. C'est alors que nous la rendrons toute moissonnée comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent, même sans connaître le verset par cœur, quand on voit qu'Allah Azza wa Jal dit qu'il envoie des preuves pour des gens qui réfléchissent. Parce qu'Allah Azza wa Jal attend du croyant qu'il médite, qu'il observe, qu'il analyse et qu'il arrive à une conclusion. Et cette analyse doit être basée sur les réalités du dunya ou de la foi. De la foi. Si tu réalises en fonction des réalités du iman, tu arriveras à une conclusion et à la bonne conclusion. Soyons donc ces personnes qui réfléchissent. Ne soyons donc pas ces troupeaux de moutons qui suivent les mouvements de consommation, de surconsommation. Si dans une pub on nous dit d'aller à droite, on va à droite. Si on nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. Si on nous dit de manger telle chose, on mange telle chose. D'acheter tel produit, on ne doit pas être des moutons qui suivent un troupeau. On doit être des personnes intelligentes. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit hier concernant le fait de ne pas gaspiller. Mais là, c'est une autre étape encore, c'est notre relation, notre attachement intérieur avec les biens de ce monde. Parce qu'en fonction de l'attachement que tu as pour les biens de ce monde, tu vas consacrer un pourcentage d'efforts et une partie de ton... Qu'est-ce qui a le plus de valeur de ce dunya ? Le temps. Et une partie de ton temps. Plus tu es attaché au monde, plus tu es attaché à ces biens, ben tu vas y consacrer du temps. Ça, c'est tout à fait logique. Donc, attention. Attention à ne pas être trop impressionné par ces réalités, parce que sinon, on risque de consacrer notre vie pour ce dunya. Et lorsque le dunya nous est repris, ou c'est nous qui disparaissons, il y a deux cas de figure, ce sera an-nadam, ce sera des remords. Ibn Kathir, rahimahullah, il explique, daraba ta'ala, Allah Azza wa Jal, donne un exemple, daraba ta'ala, mathalan, li zahrat il hayati dunya wa zinatiha, wa sur'atin qidaiha wa zawaliha. Allah Rabbul Izzah donne un exemple de la beauté de ce monde, les étapes, et comment est-ce que les choses vont très vite, jusqu'à ce que ce dunya disparaisse. Quel exemple est donné? La végétation. Quand on dit la végétation, ça peut être ce qui est vert, ça peut être des arbres fruitiers, peu importe. Il dit qu'il y a une pluie qui tombe donc sur un terrain où il y a une terre qui est fertile, et là, les gens observent. Les gens observent et ils voient que cette terre qui est fertile, elle a eu de l'eau de pluie, bientôt il y a des plantes, des arbres fruitiers, des légumes, ou peu importe, ça peut être pour les hommes, mimma yakuluna, wala na'am, ou pâturage, pour les animaux. Et lorsque ces nabats se mettent à pousser, ala ikhtilafi anwa'iha wa asnafiha, différentes catégories, comme on a dit, ça peut être légumes, fruits, arbres fruitiers, peu importe, et à cet instant, la terre a atteint son paroxysme en termes de beauté, hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha. Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit. Et ça, c'est une réalité qui nous touche. Parce que ces biens de ce dunya, à un moment donné, ils deviennent attirants. Comme on l'a dit, c'est pas comme si Allah nous dit que ces biens-là n'ont aucune saveur. Non, il y a une saveur. Quand tu vois une maison avec piscine, et ainsi de suite, tu as envie. Tu vois une grosse voiture qui est comme ci, comme ça, tu as envie. Tu vois telle chose, on a envie, le cœur penche. Le cœur penche vers les plaisirs de ce dunya, et ça c'est de la fitra, c'est de la nature humaine. Mais le grand combat, c'est de combattre ses passions et de combattre la nature humaine. Et c'est un des objectifs du jeûne, du somme, aller à l'encontre des pulsions, des passions, de ce que nous avons envie de faire pour faire passer l'ordre d'Allah Azza wa Jal avant. Quand tu as très faim, très soif, l'exemple est classique, mais c'est cet exemple classique même qui nous parle le mieux. Quand tu as très faim, très soif, tu sors du travail, il est 17h, et au frigidaire, il y a tout ce qu'il faut, mashallah. Et tu as 20 centimètres du bonheur. Il suffit de tendre la main et c'est bon. Tu es rafraîchi, tu bois, tu manges et tout. Le nafs, il le veut. Le nafs, il ne connaît pas c'est quoi le saumli. Il ne veut pas savoir tout ça. Le nafs, il a des besoins. Il veut qu'on puisse satisfaire ses besoins qui sont des besoins primaires. Mais la foi intervient. La foi dit non. Le iman dit non. Pas maintenant. Il faut attendre. Il y a une limite. Il y a un engagement. Ce matin, j'ai dit Allahumma inni. Asoum ghadan laka. Pas bismika amut wahya. Ça c'est le soir. Allahumma inni asoum ghadan laka. Tu as fait l'intention, tu t'es engagé avec Allah. Cet engagement le respecte. Et ça, c'est une spécificité du jeûne. Que lorsqu'un croyant s'engage dans cette action, il le respecte. On pourrait presque dire que 100% des jeûneurs respectent leur engagement avec Allah. Oui ou non? Celui qui démarre une journée de jeûne, est-ce que ça existe? Une personne qui dit, ah, j'en ai marre, je vais boire un coca glacé. Ça n'existe pas. Parce que Allah Azza wa Jal nous a... certains savants disent que ça fait partie des spécificités du jeûne. Quand tu l'accomplis, tu t'engages et Allah te donne cette force spirituelle pour respecter ton engagement. Même si toute l'année, on n'est pas très, très, très pratiquant. Même si toute l'année, on n'est pas très, entre guillemets, religieux. Mais quand on s'engage de Ramadan, on y reste. Alors que pour les autres actions, ce n'est pas forcément le cas. Une personne qui prie commence à cela, il dit que bon, on va prier avec concentration. À un moment donné, comme on l'avait dit au début, son esprit vagabonde, il va à droite, il va à gauche, il va penser à mille et une choses. C'est-à-dire qu'il n'arrive peut-être pas à respecter son engagement jusqu'au bout. Ou un jour il prie, le lendemain il ne prie pas. Mais concernant cet autre pilier qui est le Ramadan, le Somm, celui qui démarre, il le fait correctement et il respecte ses interdits. Donc c'est presque une action qui nous est ouverte complètement et qui nous permet de changer notre intérieur, renforcer la foi pour qu'elle arrive à s'imposer face au nafs. Et c'est le grand combat de la vie. Entre le waswasa de shaitan, entre inna nafsa la ammaratum bil khair ou bissou, bien sûr bissou, et la foi, ton iman, ta croyance en Allah Azza wa Jal, ton iman bil ghayb, c'est cette foi en l'invisible. Ce sont des choses qui ne sont pas palpables, qui devra guider et maîtriser des besoins qui eux sont palpables et qui peuvent être satisfaits par les cinq sens. Ça, c'est le combat d'une vie, c'est un engagement avec Allah Azza wa Jal. Donc, lorsque ce dunya atteint son paroxysme de beauté et que tu le possèdes, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition. Et revenons bien vers l'exemple, le pâturage. Hein, Mashallah, il a rempli cette wadi, cette plaine. Il y a des arbres fruitiers, il y a des choses qui ont poussé. Et les hommes pensent que ça c'est pour nous. On va jouir de tout ça. Et avant même qu'ils arrivent à jouir de tout ça, la suite du verset, c'est alors que notre ordre vient de jour ou de nuit, c'est alors que nous la rendrons toute moissonnée. Quelques instants après, Allah Azza wa Jal décide de détruire tout ça. Parce que tout ce qui est vert, tout ce qui est flamboyant, à un moment donné, connaît l'autre cycle, il va jaunir et il va dépérir. Et il va disparaître. Et là, l'homme est déçu parce qu'il pensait avoir fait des efforts, il a eu quelque chose, mais il se rend compte que ce n'était là que quelque chose d'effet. C'est un exemple qui est très parlant à travers ce qui pousse à travers la terre. Et ça nous permet de réaliser que quel que soit notre projet, quelles que soient les choses qui nous attire de ce dunya, on doit réaliser que c'est éphémère. Il n'y a rien qui est éternel. Soit c'est ce bien qui te quitte, soit c'est toi qui le quittes. Et quand tu le quittes, tu le cèdes à d'autres personnes. Et ça rejoint les autres hadiths qu'on avait cités il y a quelques jours concernant le décès de l'être humain et le fait que ces biens retournent aux mains des héritiers. وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. Il dit, il est ainsi pour n'importe quelle chose après que le cycle soit atteint, il disparaît, c'est comme si qu'il n'y avait plus de traces. Regardez, même si on analyse l'histoire des civilisations, quelles étaient les civilisations brillantes à l'époque? Quand on parlait du Najash et du Négus, c'était une civilisation brillante. Maintenant l'Éthiopie, un pays d'une pauvreté extrême. Regardez les Perses avant, c'était les concurrents des Romains, Faris. Maintenant, bon, après le pays, la zone s'est divisée, mais il n'y a plus autant de machin. Regardez les Romains à l'époque. Bon, c'est vrai que l'Italie, ça reste un pays européen, mais quand on parlait de Rome et la puissance de Byzance et tout, c'est autre chose. Il a réalisé, quoi-t-il, qu'al-ayyamu nudawiluha bainan-nas. Il y a des cycles. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont riches, mais on sait pertinemment que dans 20 ans, ce ne seront plus les pays présents qui feront la loi. Il y aura d'autres pays, ce qu'on appelait encore il y a quelque temps de façon très péjorative du tiers-monde, et qu'ensuite, on a essayé d'embellir un peu, on appelait pays en voie de développement, parce qu'intérieurement, on voulait dire en voie de civilisation, parce qu'il fallait qu'ils soient blancs comme nous, pour qu'on les considère comme de vraies civilisations dans Moustahane. Maintenant, on se rend compte que ces pays-là, ils sont en train de grimper, de monter, ils sont en train d'avoir une monnaie qui est stable, et ainsi de suite, parce que leur revenu, leur système économique n'est pas basé sur la spéculation, mais c'est véritablement des ventes, du commerce, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Le dunya, c'est une question de cycle. Maintenant, si tu jettes toute ton attention et tes objectifs sur une phase du dunya, ben on risque d'être déçu. Ibn Kathir, ensuite en conclusion, c'est ce hadith, « Waja'a fil hadith yu'ta » Ah oui, donc là il donne un exemple, mashallah, en rapport avec l'au-delà. Là il parle d'un homme qui a eu tout ce qu'on peut imaginer comme bienfait de ce monde et qui est mort avec les bienfaits de ce monde. Il dit « Yu'ta bi an'ami ahli dunya » L'homme qui a eu le plus de bienfaits de ce monde sera présenté le jour de Qiyama et on le fera goûter une seconde du feu de l'enfer. Et ça va tellement le choquer, qu'on lui demandera après cette seconde. Hein. C'est bien une seconde, un instant. Hal ra'ayta khayran qat. Est-ce que tu te souviens des bienfaits que tu as eus dans ce monde? Et le hadith dit bien bi an'ami ahli dunya, l'homme qui avait été le plus comblé par Allah de ce monde, c'est-à-dire l'homme qui était en bonne santé, qui avait le plus de richesses, l'homme le plus heureux de l'histoire des civilisations, l'homme le plus fortuné. Et lorsqu'il va voir une seconde du Jahannam, il va dire, et la question sera posée, hal marra bika na'imun qat, est-ce que tu te souviens des bienfaits que tu as eu avant? Fayaqulu la, il va dire que non. C'est-à-dire, cette seconde du Jahannam lui fera oublier tout ce qu'il a pu obtenir comme bienfait de ce dunya. Et dans l'autre sens aussi, وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا. Celui qui a été le plus martyrisé, qui a eu le plus de difficultés de ce dunya, maladie, pauvreté, c'est-à-dire l'homme le plus malheureux de ce monde, une seconde, فِي النَّعِيمِ رَمْسَةً, une seconde, une fraction de seconde, où il va voir les bienfaits du paradis, ثُمَّ يُقَالُ لَهُ, lui demandera, هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطْ فَيَقُولُ لَا, est-ce que tu as connu des difficultés de ta vie avant? C'est-à-dire, c'est comme si qu'on lui demande, raconte tes difficultés de ce dunya. Raconte ce que tu as pu passer pendant 50, 60 ans de misère, de maladie, de guerre, et ainsi de suite, de ce monde. Il va dire, là, wallah, je n'ai aucun souvenir de tout ça. Parce qu'une fraction de seconde du Jannah, ça te permet de tout oublier. Que dire d'une éternité dans le Jannah? Une fraction de seconde de le Jahannam, ça te fait oublier toute ta vie de prince que tu as eu de ce monde. Que dire de, je ne dis pas une éternité parce qu'aucun croyant ne reste éternellement dans le Jahannam, qu'Allah nous protège même de la vision du Jahannam, mais que dire d'un laps de temps passé dans le Jahannam à cause de nos péchés? C'est vraiment là une mauvaise transaction que de se dire profiter un peu de ce monde et on verra là-haut, attention, on risque de voir les pieds des choses qui nous feront largement oublier le peu de plaisir qu'on a eu dans ce dunya. Une personne peut se dire que je suis jeune, il n'y a aucune raison de me priver, il ne faut pas être rigoriste, si je veux aller m'amuser un peu, je peux le faire et après on verra. Mais là-haut, une seconde du Jahannam nous fera oublier tout ce qu'on a pu avoir comme plaisir apparent de ce dunya. Il y a d'autres versets qui vont dans le même sens de ces ayats. On parle de plantes qui deviennent vertes, puis jaunissent, et puis ils vont dépérir, et ainsi de suite. Tout ça, ça nous fait comprendre que le dunya est éphémère. C'est une question de cycle, qu'on ne s'attarde pas, qu'on ne perde pas notre temps, notre attention sur quelque chose qui est éphémère, mais plutôt investir pour ce qui est éternel. Barakallahu fikum. Permettez-moi un deuxième verset rapidement. On a pu raccourcir un petit peu l'objectif de tenir en 15 minutes. Inna Allah la yadhlimu shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Quand une personne décide d'accomplir un péché et qu'il s'organise pour le péché, est-ce que c'est Allah qui lui a fait du tort? Non, c'est lui-même qui est responsable. Lorsqu'on se décide de ne pas se réveiller pour la prière de Fajr, ou de ne pas faire telle action qui est obligatoire, ou lorsqu'on se décide d'aller vers un endroit qui n'est pas bien, il a réalisé, quels que soient les exemples de péché, on est en train de nous causer du tort à nous-mêmes. Et ce n'est pas Allah Azza wa Jal, excusez-moi, mais qui encode ce péché. Parce que l'être humain, ça c'est un point qu'on avait oublié de citer hier. Il y en a un verset, il y avait pas mal de rousses, mais on a oublié. Parmi les points qu'on devait citer hier, c'est que l'homme possède le libre arbitre. Allah te donne le choix. Soit tu écoutes, soit tu n'écoutes pas. Quand tu es face à un péché, si tu accomplis, assume ta responsabilité, assume les conséquences. Et si tu t'en éloignes, sache qu'Allah est content de toi. Et pour le fait que tu t'éloignes d'un péché, Allah te comble de récompenses parce que tu as su dire non à ce qui est haram. Et Ibn Kathir, en commentaire, il cite ce hadith qui est un des hadiths les plus importants concernant l'au-delà. C'est un hadith qui nous permet de réaliser la portée de nos actions, de nos décisions. C'est lorsque hadith Abu Dharr radiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Qudsi, de lequel Allah azza wa jalla s'adresse au prophète alayhi salatu wa sallam, pour qu'il nous enseigne que ya ibadi, ô mes serviteurs, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhlamu, sachez que j'ai rendu le dhulm, l'oppression, haram sur moi, c'est-à-dire Allah n'agit jamais de façon injuste et je l'ai rendu haram. pour vous. Donc n'agissez pas de façon injuste entre vous. Et la fin du hadith, ça rejoint le verset. Et ce qui nous intéresse, il a an qala fi akhirihi ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ô mes serviteurs, voilà donc les actions qui ont été cumulées et les actions qui vous seront présentées. Où ça? Là, on parle du mizan, près de la balance, la remise délivrée, les moments où les actions de l'homme sont dévoilées. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. C'est-à-dire le jour où on sera présenté devant Allah Azza wa Jal, nous allons voir l'intégralité des actions que nous avons accomplies dans ce monde, depuis qu'on était baligh jusqu'à la mort. Et à ce moment-là, c'est là qu'Allah Rabbul Izza nous dit, celui qui dans son livret d'action, il voit les actions qui apparaissent, il les voit, il les reconnaît. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à l'au-delà. Tu vois la salat al-tarawih du 14 juin 2016, tu le vois. Tu vois le money 2 euros que tu as donné à telle personne dans la rue le 1er janvier 2012. C'est des actions que toi-même tu as oubliées. Mais le jour de Qiyamah, l'homme voit toutes ces bonnes actions. Mais malheureusement, nous voyons également nos péchés. Dit faman wajada khairan, c'est comme si tu as un grand sac, tu commences à tirer un par un et tu vois telle chose, tu te rappelles, ah oui, ça c'est telle chose. Et la mémoire de l'homme devient parfaite le jour de Qiyam. On se souvient de tout, une mémoire qui n'est plus celle de l'être humain, c'est une mémoire qui couvre toute ta vie. Mais waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa, mais celui qui trouve autre que ça, c'est-à-dire qui ne trouve pas de bonnes actions, si dans ce livret on voit des mauvaises actions, des péchés qui sortent, ben il n'a de reproche à faire qu'à lui-même. Pourquoi? Parce que premièrement, il a pris les mauvaises décisions, il a fait les mauvais choix face au péché, il savait que c'était pas bon. Parce que s'il ne savait pas, comme on l'a vu dans un autre verset, dans le 3e ou 4e tarawih, s'il était ignorant, il ne connaissait pas ce haram, c'est même pas considéré comme un péché. D'accord? Il savait, il a eu le choix, il l'a fait quand même. Donc c'est déjà une faute. Deuxième faute, comment est-ce que tu as pu laisser ce péché arriver jusque-là? Comment est-ce que tu as pu laisser ce péché traverser tous les filtres de la rahmat d'Allah et de son pardon, de la maghfirat d'Allah, pour qu'il se trouve dans ton livret de compte et que tu aies à en répondre? Ça, c'est également impardonnable. Pourquoi? Parce que notre Seigneur nous donne tellement de possibilités pour qu'on lui demande pardon, pour que nos péchés soient pardonnés. Si quelqu'un retrouve ses péchés là-haut, c'est qu'il n'aura fait aucun effort. Aucun effort pour demander à Tawbah al-Nasuha. Ou qu'il n'aura pas profité spirituellement de ce Ramadan ou du Hajj qu'il a accompli ou des moments très, très intenses où il pourra demander, où il aurait pu demander avec sincérité, dévotion, en réunissant les conditions du repentir sincère. S'il ne l'a pas fait, c'est une faute. Et il n'aura de reproche à faire qu'à lui-même et à Allah. C'est pas Allah qui agit mal. Ce sont les hommes qui prennent les mauvaises décisions. Ça nous fait comprendre qu'il n'y a pas de fatalisme en islam. C'est pas que c'est écrit dans le destin, c'est arrivé. Si c'est écrit le péché, c'est arrivé. Ah, baden. Ça, il y a eu des sectes qui sont apparues, qui avaient ces thèses, on appelait ça les Qadar, les Jabariyya. Et puis il y avait d'autres sectes également. Ce sont les premières déviances dans les croyances islamiques. De l'autre côté, il y a eu les Qadariyya qui sont apparus pour aller à l'encontre. Ils ont osé dire que Allah ne connaît pas tes actions tant que tu ne les accomplis pas. Parce que de l'autre côté, les Jabariyya, ils avaient dit que si c'est écrit pour toi de faire l'adultère, tu vas le faire. Tu ne peux pas y échapper. Si c'est écrit pour toi d'aller faire la prière de la nuit, tu le feras. D'un certain sens, Allah a prescrit les choses et il n'y a pas de libre arbitre. Abadan wallah. Il y a à faire la part des choses entre le destin et le choix, la décision qui appartient uniquement à l'homme. Et la décision que tu vas prendre, c'est ce qu'Allah savait que tu allais faire. Parce que là, on parle d'une des qualités d'Allah qui est le ilm et la connaissance d'Allah. Elle est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Allah connaît ce que tu vas faire dans 30 ans, 40 ans, de tes intentions et de ce que tu vas réaliser, sans pour autant que cela dirige ton choix. Allah te laisse faire. Mais ce que tu vas faire, Allah savait que tu allais faire ça. C'est ce qu'il a prédestiné par rapport à ton orientation. Donc Allah nous donne la possibilité, premièrement, de réaliser, de revoir un peu à la baisse nos objectifs, au cas où si on avait beaucoup trop d'objectifs en rapport avec les biens de ce monde, et qu'Allah nous permette de réaliser et d'intégrer le caractère éphémère des biens de ce monde, et que dans nos cœurs, ben, il y a l'amour du akhirah qui s'installe, l'amour d'Allah, l'amour de son prophète, l'envie d'accomplir de bonnes actions, et que nous puissions profiter de ce mois béni pour beaucoup demander à Allah Azza wa Jal de guider notre cœur. Le plus important, ce n'est pas le jeûne et compléter et faire les 30 jours. Oui, ça c'est l'obligation, mais ce qui est important, c'est d'avoir d'arriver à une réforme spirituelle intérieure. Que tu te rends compte de tes péchés, de tes manquements, et que tu vois le chemin qui reste à faire, et que tu arrives à parler avec ton Seigneur, demander, Ya Allah, il me reste beaucoup de chemin à faire, aide-moi, Ya Allah, donnez-moi la possibilité d'avancer spirituellement, de combler ces erreurs pour devenir un serviteur que tu aimes. Et ce sont ces intentions, ces doigts que nous devons demander, qu'Allah nous accepte et nous fasse comprendre ces réalités. Ma tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen. Jazakum khair.